Radio-Canu présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Kiris. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Kajar défile avec son armée. Il est à cheval et ses hommes sont à pied. Il y a foule dans la rue de la ville pour acclamer celui qui vient de remporter une grande victoire. À la fin du défilé se trouvent des chars pleins de butin, faits d'or et de pierres précieuses, d'étoffes. Après les chars, l'escorte d'esclaves qu'il a fait. Le peuple l'acclame et est heureux. Après plusieurs mois de siège, la ville est enfin libérée. En plus, l'armée a poussé les assiégés jusqu'aux abords de leur royaume et a pillé les villes frontières. Le roi a belle allure sur son cheval noir. Il est grand, fort, les cheveux noirs, une barbe abondante, le sourire aux lèvres. Sa tunique de parade est en tissu rouge avec des broderies de fil d'or. Après avoir traversé la ville principale, la troupe s'est arrêtée au pied des marches du palais, où se trouve, pour les accueillir, le fils du roi et son premier ministre. En haut des marches, le roi descend de cheval, monte les marches. Arrivé en haut, il est accueilli, les bras ouverts, par son fils, un grand jeune homme mince, les traits du visage fins, fermes et musclés. Il porte une tunique rouge. Félicitations, père. Merci. Le premier ministre s'incline, un vieil homme à haute stature, maigre, cheveux et barbe grises, tunique blanche. Seigneur, vous avez remporté une belle victoire. Merci. Allons dans la salle du trône. Vous aussi, mon fils. Et vous serez tous les trois dans le palais. Palais de pierre et de marbre, avec de la mosaïque au sol. Ils entrent dans la salle du trône. C'est une grande pièce rectangulaire avec des colonnes de marbre. À l'extrémité, une estrade où se trouve le trône. Les trois hommes de la ville haute restent debout au milieu de la pièce. Le roi leur dit: la bataille n'a pas été facile. Nous n'avons pas mené une bataille définitive. Nous avons attaqué et nous avons gagné. Mais cela ne peut être notre dernière victoire. Nous avons remporté une victoire, mais pas la guerre. Si notre ville et un royaume veulent notre mort, puisque nous leur faisons de l'ombre, nous sommes riches, très riches. Notre peur de commerce que nous menons leur font concurrence. Beaucoup de villes de la Méditerranée aimeraient nous remplacer. Il faut donc s'attendre à une seconde attaque beaucoup plus puissante. La garde des fortifications devrait être renforcée, mon Kiris, mon fils. Tu auras la responsabilité des fortifications et des portes de la ville. Je te nomme général en chef.
Merci, père.
Ne me remercie pas. Tu auras beaucoup de responsabilités. Quant à moi, ma troupe, nous ferons des percées chez les assiégeants pour les disperser. Péor, mon ministre, laissons le peuple se réjouir pour l'instant. Le temps des privatisations viendra bien vite. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais prendre un bain.
Et ils sortent de la pièce.
Trois heures plus tard, le roi et son fils mangent ensemble. Ils sont seuls, allongés sur un tapis et coincés par des coussins, devant une table basse où se trouvent des plats de victuailles. Le père et le fils prennent dans leurs mains des morceaux de viande en sauce.
« Alors, mon fils, où en es-tu avec la belle Irisis ?»«
Je fais ce que vous m'avez ordonné. Je vais lui rendre visite et je lui fais mes hommages. »«
Elle est belle, n'est-ce pas ?»
Je ne l'aime pas, père. Elle est fière, arrogante, ne pense qu'à sa toilette. J'ai toute sa beauté vulgaire.
Tu ne l'aimes pas, mais je veux que tu l'épouses. En te donnant cette fille, j'ai fait des ennemis, tellement elle est recherchée. Sa beauté, sa grâce enivrent tout le monde.
Sauf moi, père.
Tu n'es qu'un igot. Et tu ne sais pas ce que c'est qu'une femme. Mais je tiens à ce que tu l'épouses.
Et pourquoi, père ?
Parce que sa mère a été ma maîtresse et que je lui ai promis de marier sa fille à mon fils.
Je ferai selon tes ordres, père.
C'est bien. Tu iras la voir ce soir.
Curibis est un fils obéissant et sage. Il a appris très jeune qu'il ne fallait pas contrarier son père en assistant aux exécutions de ceux qu'il avait désobéi et en recevant quelques coups de fouet. Mais il sait que plus tard il sera roi un jour et qu'il pourrait faire tout ce qui lui plaît, à moins que plus tard, si la guerre est perdue, il ne soit qu'un simple esclave. Curibis entre dans la demeure de la princesse Irisis, sa fiancée. Il est mené dans une pièce qui est salon et jardin. Il la voit là, allongée sur un lit, rempli de coussins multicolores. Elle est grande, mince, les cheveux noirs, les yeux dorés, très grands. Elle porte une robe de tulle transparent avec des broderies de fil d'or. Il s'approche d'elle. Bonjour Irisis. Elle lui tend sa joue, il y dépose un baiser, il s'assoit à ses pieds.
Écoute-moi la bataille de ton père.
Il n'en a rien dit et semble plus préoccupé par l'avenir.
Ton père m'a fait un cadeau. Il m'a donné une esclave qu'il a ramenée.
Elle frappe de ses mains. Domestique entre.
Faites venir la nouvelle.
Et il sort.
Tu verras, c'est presque une enfant. C'est la fille d'un prince.
Que vas-tu en faire?
Comme elle est assez bien faite, j'en ferai ma domestique personnelle. C'est elle qui m'aidera à m'habiller et me coiffer.
Le domestique fait entrer une jeune fille. Jeune fille qui semble avoir dans les 15-16 ans. Elle est grande, mince, fine, la peau très blanche, les cheveux noirs. Ses cheveux descendent jusqu'à la taille, porte une robe longue bleue, pâle, avec une ceinture dorée. Curis est surpris par cette apparition, il la trouve très belle. Elle marche à petits pas, d'une façon mesurée. Irisis lui dit « Approche !» Elle s'approche de sa maîtresse.
« Prends cet éventail qui est à terre. » Et évente-moi.
La jeune fille s'exécute. Elle prend un grand éventail qui est au bout d'une grande perche et évente sa maîtresse.
Tu te nommes comment?
Péris.
Bien, Péris. Tu sais que tu es à moi et que tu m'aideras pour ma toilette.
Curis n'ose pas la regarder, mais sans sa présence, Irisis dit à Curis.
Je me suis acheté des tas de choses ces derniers temps, mais cela ne m'a pas distraite. La seule chose qui m'est vraiment amusée, c'est de voir la bataille sur les remparts, comme c'était excitant.
L'éventail frôle les cheveux de la princesse. Elle sursaute.
Oh, tu peux pas faire attention, petite sotte.
Elle se lève d'un bond, lui arrache l'éventail des mains et, avec le manche de bois de toutes ses forces, tape la jeune fille qui n'ose rien dire. Elle tombe sur les coups. La voyant tomber à terre, furieux, le prince se lève, lui arrache des mains à l'éventail et lui crie « Ça suffit, vous voyez pas que c'était qu'une enfant ?» Il se tourne vers elle. La fille le regarde avec surprise. Lui la trouve merveilleusement belle. Il se sent fondre pour elle. « Relève-toi, petite !» Elle se relève.
Quel droit donnez-vous des ordres à mes esclaves?
C'est pour ton bien que je fais ça, pour que tu n'oublies pas que tu es princesse. Il la trouve laide, vieille, méchante et stupide. Il lui dit encore, je vais rentrer, pardonne-moi. Mais je me sens pas bien, je suis fatigué. Et il la quitte. Elle loue ses épaules et est tellement sûre de sa séduction. Cette nuit, Kiris n'a pas trouvé le sommeil. Alors, il est sorti de sa chambre, monté au rempart de la ville qui dort. Le ciel est étoilé, de l'autre côté des murs, la mer. Il s'assoit sur une pierre et regarde l'horizon. Pour sortir de ses pensées, la jeune esclave se plaque le dos à une pierre et pense tout haut. Elle est belle, fine et lisse. Je revois encore son visage, apeuré lorsqu'elle était à terre. Que m'arrive-t-il? Est-ce de l'amour? Je n'ai jamais été. C'est pas possible qu'un prince puisse être pris d'une esclave. Il faut que je me raisonne. Jusqu'à présent, j'ai toujours été obéissant et loyal en ton nom, mon roi. Je ne peux pas penser à cette fille. Mais non, c'est impossible. Son visage devant mes yeux. Que faire? J'aimerais être esclave comme elle. C'est la première fois que je rêve d'être autre. Comment s'appelle-t-elle déjà? Péris? Péris? Et il est resté toute la nuit à parler seul ainsi. Demain matin, il est reçu officiellement chef des fortifications, passant en revue son armée. Les fortifications, les portes de la ville dont il reçoit les clés. Désormais, il devra tous les jours voir si tout va bien. Vérifier les hommes, maintenir la surveillance et ouvrir, fermer les portes de la ville. Il doit aussi s'occuper du ravitaillement. Faisant ses obligations, il continue à penser à la jeune esclave. Décidément, mon corps est pris. Je n'ai fait que d'y penser. Il va plusieurs fois par semaine voir sa fiancée dans l'espoir de la voir elle. Sa fiancée est heureuse de le voir. Elle est fière de ses nouvelles fonctions. Ils prennent souvent le repas ensemble. C'est surtout elle qui parle de ses achats, des fêtes qu'elle fera après la guerre finie. Lui, à chaque fois, attend l'apparition de la jeune fille. Elle vient furtivement repeigner sa maîtresse ou lui apporter un bijou. Il la regarde timidement. Il s'est rendu compte qu'il l'observe à chaque fois. Elle le regarde aussi et est troublée par lui. Le roi est content de son fils. Il s'occupe merveilleusement bien de ses obligations et va régulièrement voir sa fiancée. C'est un brave fils. Des fortifications, Kiris et ses hommes voient arriver par terre et mer une immense armée pour les assaillir. L'alerte a tout de suite été donnée, les portes sont fermées, les soldats sont sur les remparts. La mer est remplie de bateaux, pleins d'hommes. De l'autre côté, la terre est pleine de fantassins et de cavaliers. Les soldats attendent. S'approche pour pouvoir jeter des pierres et des flèches.
Le nouveau commandant Quintus Arius.
Ramez! Cadence de combat, Ortator. Cadence de combat!
Les premiers marins accostent, les hommes mettent pied à terre et commencent à escalader le rocher où se trouvent les murs de fortification. Kyrys donne le signal, les soldats lancent des pierres et des flèches. Une pluie de pierres et de flèches tombe sur les assaillants qui retrouvent chemin ou meurent. Une heure plus tard, la bataille fait rage. Les assaillants n'ont pas réussi à poser sur les murs une échelle, mais ils lancent à l'aide d'une énorme machine en bois et se rouent des boules de feu sur la ville. La ville tient bon et continue à faire pleuvoir des pierres et des flèches sur les assaillants. La journée a été dure, mais la ville a tenu le coup. La nuit, on n'attaque pas. On soigne les blessés, remplace les morts, renforce les fortifications, distribue vivres et armes. Le prince est épuisé, la curue tenait des ordres d'une porte à l'autre. Il a décidé de rendre visite à sa fiancée. Là, il trouve le palais vide. Il longe les couloirs et tout d'un coup, il voit qui avance vers lui, la jeune esclave. Lorsqu'ils sont l'un devant l'autre, ils sont tous deux surpris. Kyrys a le corps qui bat. Où est ta maîtresse? Où est ta maîtresse? Elle s'est réfugiée au palais avec tous ses domestiques. Et toi? Il m'a demandé d'aller lui chercher un de ses coffrets qu'elle avait oublié. Tu n'as pas peur de la guerre? La guerre, je connais. Mon pays a déjà connu la guerre. Je vais t'accompagner. Et il la suit. Ils vont dans les appartements de la princesse. Elle prend le coffre et il s'en retourne au palais. Kyrys suit pas à pas la jeune fille. Elle aimerait être toujours auprès d'elle. Elle est tellement belle, elle marche avec une telle grâce. Elle n'ose pas le regarder, elle sent son regard et cela la trouble. Ils arrivent hélas au palais, un palais en effervescence, plein de monde qui vont et viennent. Kyrys lui dit, la princesse est au premier. Il la suit et il retrouve la princesse au milieu de sa domesticité. Elle est heureuse et fière qu'il soit venu la voir un jour comme celui-là. C'est une preuve d'amour. Kyrys est épuisé. Malgré tout, la nuit, il y a des difficultés à dormir. Il est plein de la pensée de la jeune fille. Même la guerre ne peut m'empêcher de penser à elle. Les jours passent, il n'en peut plus. Il veut absolument la revoir et seul. Mais comment? En lui passant un message pour lui donner rendez-vous? Mais sait-elle seulement lire ma langue? Marc sur un parchemin, puis le déchire. Il vaut mieux que je lui dise. Le soir, il va au palais de sa fiancée qu'elle a réintégrée. Il la retrouve en train de manger. Elle le fait allonger pour qu'ils mangent ensemble. Lui, inquiet, attend la fille et se demande comment il fera pour lui parler. Malheureusement, le repas se termine sans qu'il l'ait vue. Il quitte sa fiancée tristement. En sortant de la pièce, il tombe sur la fille. Pris d'une fureur amoureuse, il lui prend le bras et lui dit « Je veux absolument vous parler. Il faut que nous nous voyions seuls. » La jeune fille est effarouchée et ne sait que répondre. Il lui dit « Cette nuit, une fois que ta maîtresse sera couchée, viens me rejoindre sur le rempart de la porte ouest. » Et il se sauve en courant. Il l'attend, pour qu'elle ne vienne pas ou qu'elle le dise à sa fiancée. Pour croire ses yeux lorsqu'elle vient à lui. Je suis venu comme vous me l'aviez dit. Il la fait asseoir sur une pierre et s'assoit à ses côtés. Il lui prend les mains en lui disant « Péris, ça fait des jours et des jours que je pense à vous. » Fait des jours, oui, des jours et des jours que je pense à vous. Je vous aime et c'est la première fois que j'aime. Elle est rouge de honte. Je pense à vous jour et nuit. Laissez-moi vous aimer. Apeurée, elle se sauve en courant. Une journée terrible, pleine de remords, de peur de la perdre. Et en même temps, cette guerre qu'il faut faire, donner la mort et offrir sa vie à celle que l'on aime. Je suis pris entre ces deux dilemmes. Que faire? Que faire? Il va revoir sa fiancée. En allant dans les appartements, il la rencontre dans le couloir. Il se sent intimidé. Elle baisse ses yeux en le voyant. Je vous en prie, Péris, je veux vous revoir. Laissez-moi, ma maîtresse risque de venir et nous surprendre. Je ne peux pas tardir quand vous n'aurez pas donné un rendez-vous. Cessez de me torturer. Je ne suis qu'une esclave. Moi, je vous aime. Vous n'avez pas le droit de me dire cela. Je ne suis rien. Oui, vous êtes tout dans mon corps. Je vous en supplie, partez. Je ne veux plus vous entendre. Ayez pitié, cela me fait trop mal. Des larmes roulent sur son visage. Qu'avez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Demande-t-il. Vous ne comprenez donc pas que vous faites souffrir en vous jouant de moi? Je ne vous joue pas. Je vous aime vraiment. Alors ayez pitié d'une personne qui n'a pas le droit de vous aimer. M'aimez donc, dit-il. Ses pas se font entendre. Elle sursaute et se sauve. Il lui dit, je sors au même endroit que la dernière fois. Dites oui ou je crie. Elle fait oui de la tête et se sauve. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Kyris, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre en